Espace 2.
C'est un monastère invisible dans un appartement HLM de la banlieue nord de Marseille. Son fondateur est un ex-trader millionnaire qui a tout plaqué à 28 ans pour se consacrer à la vie monastique. D'abord moine à l'abbaye cistercienne de Tamiers, il partage aujourd'hui le quotidien des familles émigrées des cités en vivant dans les mêmes conditions qu'elles. Henri Quinson s'est reconverti dans l'éducation, il a fondé la fraternité Saint-Paul et c'est avec lui qu'A Vue d'Esprit passe toute la semaine, une série réalisée par Françoise Yenny.
À Vue d'Esprit. Pierre-Yves Moret.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette quatrième édition en compagnie du moine des cités, Henri Quinson, et en votre compagnie, Sabine Petermann, puisque c'est vous qui l'avez rencontré. Alors on le rappelle, Henri Quinson, hein, c'est un homme qui a fait un choix surprenant, puisqu'il a quitté un monde de réussite, la finance, où pour lui, disons, c'était souriant, avec les salaires mirobolants, pour aller vivre dans la pauvreté d'un quartier sensible à Marseille.
C'est un choix qui peut paraître étonnant, il refuse toute promotion, il quitte son travail dans la banque. C'est une expérience spirituelle, en fait, qui l'amène à faire un choix de vie aussi radical, un choix de vie de prière, de simplicité, de pauvreté même. Alors, il a tout d'abord vécu 6 ans dans un monastère cistercien en Savoie, un lieu de vie relativement austère, où il apprend à fabriquer le fromage, et il passe 4 heures par jour à prier. Et puis, progressivement, il va prendre conscience qu'il n'est pas fait pour rester dans ce milieu de vie. Il va partir à Marseille et fonder la fraternité Saint-Paul en plein cœur de la banlieue nord, dans un appartement HLM tout à fait ordinaire, où il vit dans les mêmes conditions que les résidents de la cité. Il enseigne le matin l'anglais dans un lycée voisin, un emploi, dit-il, qui lui permet de toucher aujourd'hui en une année l'équivalent d'une prime mensuelle qu'il touchait à l'époque en tant que trader avant sa reconversion.
Un changement radical donc. Alors cette communauté qu'il a fondée, Saint-Paul, est-ce qu'il l'a fondée tout seul ?
Non, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient 2 au départ, Karim de Brouckère et lui. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, ils sont 4, Karim, Henri, Jean-Paul et Jean-Michel. Et leur travail à mi-temps leur permet d'ouvrir la fraternité au voisinage l'après-midi. Alors je vous invite à plonger dans l'ambiance de la communauté en compagnie de Karim et d'Henri, Karim de Brouckère.
On a de la chance, on a le beau parc de Fontobscur, c'est un nom très romantique, avec beaucoup de verdure, hein, les pins qui balancent dans le mistral quand il y a un peu de vent. Donc on n'a pas choisi cet appartement, mais on a eu de la chance parce qu'on a tout de suite été logé ici. Et c'est vrai que cette verdure, c'est agréable, parce que dans d'autres quartiers, comme vous l'avez vu, c'est que du béton. Mais ici, bon, ben voilà, y a la nature, il y a la verdure, l'air, et puis pas de vis-à-vis de ce côté-là. De l'autre côté, c'est la place, c'est un peu plus bruyant l'été, mais pas en hiver. Saint-Paul, ce sont les 2 petits secteurs que vous avez vus quand on est arrivé en voiture. Donc 2 petits groupes d'immeubles en forme de U. Il doit y avoir au total 250 familles. Maximum.
Bonjour.
Jean-Paul. Jean-Paul.
Enchanté.
Je suis le quatrième. Il s'appelle vraiment le jeune.
Non, on nous appelle plutôt par nos prénoms. D'accord. Jean-Paul, Karim, Henri, Jean-Michel.
Henri Quinson.
Au début, quand on est arrivé, ils se demandaient si on était. Ils disaient les curés. Alors, ils ont été un peu surpris d'abord parce que Karim n'avait pas une tête de curé latin, romain. Que moi je faisais 10 ou 15 ans de moins et ils trouvaient que j'avais l'air d'un étudiant en goguette. Puis en plus, quand on est arrivé, l'appartement était complètement, enfin, avait été squatté. Il a fallu travailler ici pendant 2 mois. Donc les fameux curés, ils les voyaient couverts de plâtre et ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'ils avaient. Alors après, on leur a expliqué qu'on est plutôt, nous, dans la tradition monastique, mais ils n'ont pas ces mots-là dans leur propre tradition. Donc, et en fait, la plupart des voisins n'avaient jamais vu des communautés chrétiennes, alors encore moins des communautés comme la nôtre, qui même dans notre propre église est difficile à mettre dans une rubrique, parce que sont-ils vraiment des moines habitant dans une cité HLM donc moine, ça vient de monos, en grec, ça veut dire un. Donc en fait, c'est des communautés de célibataires, ça c'est concret. Et puis après, c'est vrai que les moines choisissent un lieu, il y a une logique de lieu, donc les pères du désert. Et moi, je défends un peu l'idée que les déserts d'Égypte, c'était pas simplement des lieux de solitude et de silence, mais c'était aussi des lieux périphériques par rapport à l'Église et la société romaine, enfin après la conversion de l'empereur Constantin. Donc, les moines, on voit ça dans les apophthegmes des pères du désert, les sentences des pères du désert. avait une parole, pas simplement qui visait à inviter à la contemplation, etc., mais c'était aussi des paroles critiques par rapport à la société de l'époque, y compris par rapport aux évêques de l'époque qui trouvaient trop compromis avec le pouvoir et puis les puissances d'argent. Et donc on voit bien que les déserts d'Égypte, ce n'était pas simplement des lieux de solitude, mais c'était aussi des lieux de résistance et c'était un lieu à connotation évangélique, un peu de dénonciation aussi, peut-être d'un système, de la facilité. Il y avait eu les martyrs des premiers siècles et puis après il y avait les moines. Et donc les lieux qu'on choisit nous aujourd'hui, comme les cités HLM, évoquent un peu aussi ça. C'est-à-dire que c'est les banlieues, la mise au ban d'un certain nombre de gens. Et donc c'est pas des lieux ruraux, mais c'est des lieux urbains, mais enfin, qui sont réputés dangereux, dans lesquels il y a plutôt des gens pauvres, parce que les déserts d'Égypte, c'était là où allaient les brigands, etc. Et donc, c'est des lieux à partir desquels on peut aussi avoir... c'est des lieux de conversion, parce que c'est pas facile de vivre ici, effectivement. Puis c'est aussi un lieu d'engagement, c'est de dire, voilà, nous, on fait le choix de pas forcément habiter là où c'est facile, là où c'est commode. Et donc, c'est important que des chrétiens puissent aussi choisir des lieux comme ça, habitent ces lieux, et puis à partir de là, il y a un rayonnement avec le voisinage, mais aussi pour les gens qui n'habitent pas le quartier, qui en venant dans le quartier vont découvrir que tous les gens ici ne sont pas des terroristes, qu'il y a des familles fantastiques, et puis aussi ils vont peut-être découvrir à quel point ils sont privilégiés, et puis en même temps à quel point tout avoir dans la vie, avoir les richesses, etc., c'est aussi souvent avoir des murs, des codes, etc., vivre tout seul devant son écran de télévision, et qu'en fait, la vie ici, elle n'est pas si mal que ça. Il y a aussi tout l'aspect positif, voilà, de la rencontre entre ces deux univers.
Donc là, on se trouve chez vous. C'est la pièce commune. C'est là que se vit la journée, les repas.
Oui, nous, on a beaucoup redécouvert le fait que Jésus passe beaucoup de temps à table. Et oui, bah, c'est un truc tout bête, mais moi qui viens du milieu des affaires, quand on veut avoir un client qui signe un contrat, on l'invite au restaurant, c'est évident. Or, dans l'église, on a l'impression que parfois certaines communautés ne déjeunent jamais ensemble. Ils participent à une eucharistie, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais eu un repas ensemble. C'est quand même incroyable. Alors nous, notre expérience, c'est que le repas, effectivement, dans notre salle, quand on arrive, il y a une grande table. Et les repas, c'est très important, surtout les repas du soir, parce que le soir, souvent, il y a des gens qui vont venir ici pour l'accompagnement scolaire, en particulier des étudiants. Et ils voient après qu'on fait la prière, donc on l'a un petit peu plus loin, on a l'oratoire.
Là, on peut aller là, c'est juste là à côté. Ah oui.
Oui, alors on a toujours des petits problèmes de place, mais il faut savoir que la plupart de nos voisins ont aussi des problèmes de place, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver parfois avec des familles très très nombreuses. Donc c'est un peu aussi une question qu'on a toujours à traiter, c'est comment habiter des appartements témoigner d'une certaine beauté, mais simple. Et puis en même temps, pour nos lieux de prière, aux lieux communautaires, bon, avoir suffisamment d'espace, mais en même temps, si on a un trop, ça peut paraître être un luxe. Alors ici, c'est surtout la prière à 6 heures du matin, elle est très calme et elle ne rameute pas les foules parce que c'est un peu tôt. Mais c'est le côté très calme de la cité à 6 heures.
Donc ça, c'est la première prière du jour.
La prière du jour.
Vous n'avez aucune prière durant la nuit?
Non, on n'a pas de prière pendant la nuit. Et par contre, la prière du soir, qui est à peu près à 19 heures, comme je le disais, très souvent, il y a des gens de passage qui restent prier avec nous. Mais on ne dépasse jamais la dizaine de personnes.
Mmh. Oui, si jamais on peut déborder dans la salle de séjour.
Voilà,
on peut un peu
déborder. Voilà. Ouais. Mais nous, on croit beaucoup aussi à la grâce de la petitesse. C'est-à-dire souvent, les gens dans l'église sont là à se lamenter, on n'est pas nombreux. Et nous, on pense au contraire que les réalités de la petitesse permettent des choses qu'on ne peut pas avec le grand nombre. Donc se retrouver à table, si vous êtes moins de 8, il y a un vrai partage du groupe. Si vous êtes plus que 8, tout le monde peut en faire l'expérience. La NASA fait des études même là-dessus. Après, on part avec plusieurs conversations, c'est pas pareil. Donc il y a aussi des logiques de nombre. Et pour certaines choses, pas pour tout, évidemment, il est bon de se retrouver dans des grandes assemblées. Donc le dimanche, on se retrouve à l'assemblée dominicale à la paroisse. Mais c'est important qu'il y ait ces petites églises domestiques dont parle beaucoup Saint Paul, hein, qui s'adresse toujours à des mères de famille, des gens qui se réunissent dans leur maison. Et donc la logique de la maison, des lieux habités dans les quartiers, ça nous paraît très important. Donc il ne faut pas du tout rougir ou avoir honte du fait que c'est petit, mais avoir clairement conscience de la grâce que ça représente.
Vous avez une magnifique icône de la Trinité.
C'est une icône de Roublov, donc une icône russe. C'est assez intéressant parce qu'on a on a aussi quelques voisins orthodoxes. Et ça, c'est une icône qui vient de la librairie Saint-Paul. Donc Saint-Paul, c'est pour nous important. Et c'est une communauté de religieuses qui s'occupe de cette librairie et qui vend aussi des icônes donc ici à Marseille. Et puis la croix qui est juste en dessous, c'est une croix qui... c'est une reproduction de la croix de Tibirine. On est très lié à ce monastère en Algérie. Donc 7 frères qui ont été assassinés en 1996, le 21 mai 1996, qui étaient des moines cisterciens. Et j'en ai connu 4 sur 7. Donc à titre personnel, ça m'a une histoire qui m'a marqué. Et ces frères vivaient justement une vie monastique, alors dans un monde plutôt rural et dans un pays, l'Algérie, musulman. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une vie de prière, de travail, mais aussi de vivre une grande proximité avec les voisins. Et c'est leurs voisins qui leur ont demandé de rester, alors qu'à partir de 1993, ils étaient menacés de mort. Donc ils sont entre 1993 et 1996, ils se posaient régulièrement la question, faut-il rester ou non, en espérant échapper au sort qui leur a été finalement réservé. Donc c'est vrai que du fait des liens personnels et de la succession chronologique aussi, puisqu'on a fondé notre petite fraternité, la Fraternité Saint-Paul, en 1997, juste après l'assassinat des frères, le fait de leur proximité évidemment avec l'Algérie et l'islam, ce qui est aussi la réalité sociologiquement de notre quartier.
Ici du quartier.
Voilà. Nous, dans un contexte urbain, en fait, on vit un petit peu la même chose, c'est-à-dire prière, travail et hospitalité, dans un milieu pauvre, avec pas mal de familles venues d'Algérie et beaucoup de familles musulmanes. Mmh. Donc ça, c'est présent dans l'oratoire, ici.
Et puis là, il y a l'icône du pèlerin d'Emmaüs.
Ça, c'est une très belle icône parce qu'elle souligne la réalité de l'amitié. Alors, il y a un moine cistercien, Elred, qui a beaucoup écrit sur l'amitié et qui reprenait des écrits, d'ailleurs, de philosophes grecs. Mais Saint Jean lui-même dit, fait dire à Jésus qu'il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Et donc, je pense que c'est une grande grâce, à la fois sur le plan théologique, anthropologique, de redécouvrir cette relation à Dieu, qui est une relation d'amitié. On pourrait quasiment dire d'égal à égal, ce qui est certainement très choquant, probablement même pour des chrétiens quand on dit ça. Mais c'est que Dieu nous voit debout, hein. Lui-même s'est abaissé, devenu serviteur, s'est mis aux pieds de ses disciples, donc il se met à nos pieds. Et donc il y a vraiment dans cette icône une espèce d'égalité entre le créateur et la créature, que je trouve très beau. Et puis, c'est vraiment la réalité de ce qu'on cherche à vivre ici. C'est-à-dire que nos voisins soient avant tout des amis. Ce n'est pas des gens à convertir pour qu'ils deviennent ceci ou cela. C'est nous qui devons être convertis, et nous devons être convertis en devenant frères de tout homme. Et donc, Dieu nous donne ses voisins qui nous ont accueillis. Les premiers étrangers et pauvres ici, ça a été nous. C'est nos voisins qui nous ont accueillis. Nous, après, on les accueille, mais la réalité, c'est que s'ils ne nous avaient pas accueillis, on ne serait pas là. Nous avançons ensemble. Tout le monde n'est pas forcément clairement conscient de la destination, puis c'est une recherche, mais en attendant, on avance tous les jours ensemble par ce voisinage, dans la durée. Ça fait 12 ans qu'on est là, et puis une assez grande proximité. Donc, effectivement, ce pèlerin d'Emmaüs, qui a la main du Christ sur son épaule, c'est une belle icône qui dit bien ce qu'on cherche à vivre ici. Alors ça vient d'Indonésie. Dans notre paroisse, on a beaucoup d'étudiants parce qu'on est juste à côté d'un pôle universitaire à Marseille. C'est la faculté de Saint-Jérôme. Donc c'est une de nos amies, Yuni, qui est indonésienne, qui a fait une thèse pendant 3 ans ici à Marseille, qui est chrétienne, dans un pays, l'Indonésie, qui est démographiquement le plus grand pays musulman au monde, et qui nous a apporté, donc, pour nous remercier de notre accueil, cet instrument de musique, qui est un instrument de musique donc indonésien, et qui se joue, c'est un instrument de percussion, que je ne sais pas jouer moi-même, mais qui donne des sons différents.
Ah oui, il y a la gamme.
C'est une gamme occidentale, puisqu'il y a des demi-tons, oui, ouais, puisque là, ouais. En fait, ça correspond à 8 notes. Là. Voilà, c'est un instrument qui nous rappelle aussi, dans notre oratoire, notre catholicité dans l'espace, c'est-à-dire que l'Indonésie, qui est très très loin, toujours présent dans l'oratoire. Donc c'est bien d'avoir à la fois l'Asie, cette icône qui vient de Tibirine, qui est plutôt celle de l'Afrique du Nord, une icône russe. Voilà, il y a un peu tout. notre communauté s'appelle la Fraternité Saint-Paul. On a choisi le nom de Saint-Paul parce que c'est à la fois l'expression du désir de vivre en proximité avec nos voisins de la cité Saint-Paul. Donc, on pourrait en faire une lecture laïque. C'est une fraternité. En France, on dit liberté, égalité, fraternité. C'est la devise républicaine. Donc, vivre en fraternité avec nos voisins immédiats. Mais Saint-Paul, c'est aussi l'apôtre de la Méditerranée. C'est lui qui a fait connaître l'évangile sur les rives de la Méditerranée.
L'apôtre des nations.
L'apôtre des nations. Alors, ici à Marseille, c'est très important parce que c'est une ville qui a 2600 ans d'âge, une vieille ville grecque, dans laquelle il y a des gens de toutes les nationalités. Il y a 200 000 musulmans ici à Marseille, il y a 80 000 juifs. Donc c'est une ville d'une très grande diversité. Et Saint-Paul donc, n'est pas allé simplement dans les synagogues, mais c'est aussi adressé aux gentils, aux gens qui étaient extérieurs à la foi juive. Donc,
ce qu'on appelait les gentils, c'était les non-juifs en fait.
Les non-juifs, voilà, c'est ça. Donc nous, on pourrait transposer aujourd'hui en disant, en parlant aux non-chrétiens, et notre quartier est très majoritairement non-chrétien. On est arrivé, oui, avec Karim, donc en 1997, et après on a été rejoint par Jean-Michel, et puis plus récemment par Jean-Paul, et puis on a toujours des gens qui s'associent à notre présence ici. On a une soixantaine de bénévoles qui n'habitent pas le quartier, qui chaque année donc s'engagent pour une année. Et puis on a aussi un couple, Xavier et Emmanuel, qui habitent juste à côté, puisque maintenant on a trois appartements ici. Au début, on a commencé avec un appartement. Un des éléments tout bêtes, mais très très important pour nous, c'est vraiment d'habiter ici. Alors habiter ici, au début, quand on est arrivé, les voisins nous posaient la question, mais vous dormez ici ? Parce qu'ils font bien la différence entre des habitants et puis, par exemple, un centre social qui peut éventuellement avoir un local dans la cité, mais où les gens ne dorment pas. Et donc les autres appartements, bah, leur fonction première, c'est de pouvoir y mettre des lits. Et donc ça, c'est important. À un moment donné, on n'avait pas assez de place ici. Donc... Et ça nous permet aussi d'avoir une présence dans différents immeubles, puisque ces appartements ne sont pas les uns à côté des autres, puisque aussi on essaye de vivre une espèce de... clôture monastique, chez les moines, il y a vraiment cette idée d'être enraciné dans un lieu. Les ermites disaient qu'il fallait garder la cellule, donc ne pas aller de fuir trop loin, mais essayer d'habiter ce lieu qui leur est donné. Et donc, nous, c'est vraiment une présence auprès des voisins immédiats, en priorité. Évidemment, on accueille toute personne qui frappe à la porte, et il y a bien des exceptions. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment d'être très proche ici, ce qui explique en partie aussi notre choix de faire un travail à mi-temps. Si bien que l'après-midi, dans l'appartement où nous sommes là en ce moment, c'est comme une porterie de monastère, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un toutes les après-midi de la semaine, donc à tour de rôle.
Vous avez une sorte de permanence comme ça.
Voilà, il y a toujours quelqu'un, et les gens peuvent frapper à la porte à tout moment. Parce que, en fait, nos voisins, très rapidement, se sont rendus compte qu'ils pouvaient venir ici quand ils avaient des problèmes avec leurs papiers administratifs, par exemple. Il y a beaucoup de voisins qui ne savent ni lire ni écrire, donc avec une population de gitans, une population étrangère. À travers ces contacts, très souvent, bah, les gens, s'ils trouvent un frère, aussi, ils s'ouvrent de leur recherche personnelle, leurs soucis familiaux. Donc c'est aussi à travers tous ces éléments concrets, un peu comme Jésus et la Samaritaine, il vient demander un verre d'eau. Et à partir de ce verre d'eau, il y a toute une catéchèse qui se fait. Là, c'est pareil. Les relations avec les voisins, c'est sur des bases très concrètes, de la vie ordinaire. Mais il m'est arrivé une fois d'être invité par une voisine chez elle pour réparer un radiateur. Et c'était presque si elle avait cassé le radiateur elle-même, parce qu'au bout de 2 minutes, elle me dit « Bon, j'ai aussi un problème avec Dieu ». Il faut toujours faire très attention si derrière le papier à remplir... derrière la demande, etc. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi ? Alors, il y a des moments où il y a plus de monde. Bon, en particulier, il y a 3 soirs par semaine où, à la demande de nos voisins, il y a un temps d'accompagnement scolaire pour les jeunes. Et donc là, c'est un peu plus structuré. Quelquefois, on accueille jusqu'à 80 personnes dans la soirée. Il y a un groupe de 40, un autre groupe de 40. Et là, on fait du tutorat, c'est-à-dire que ce n'est pas que nous qui accueillons, mais c'est aussi donc les soixantaines de bénévoles qui s'engagent pour l'année, qui viennent donc à tour de rôle aussi, et qui s'engagent généralement pour 1 heure, et ils vont accompagner 1 ou 2 enfants pour leur devoir à l'école. Et là aussi, derrière le devoir à l'école, évidemment, il y a tout un travail scolaire, mais aussi c'est tout un travail symbolique, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette cité, qui est en fait une souricière, parce qu'il n'y a qu'une seule petite route qui vient jusqu'ici, donc les gens qui viennent à Saint-Paul, c'est forcément les habitants ou leurs amis, mais sinon personne n'a aucune raison de venir ici. Le fait que régulièrement des gens de l'extérieur viennent dans cette cité et des gens qui viennent de ce qu'on appelle les beaux quartiers, eh bien, pour les habitants, même s'ils ne participent pas à l'accompagnement scolaire, ils voient ça à leur fenêtre et ils se rendent compte bah, qu'ils ne sont pas maudits, qu'on vient ici gratuitement pour un temps de rencontre et d'entraide avec les jeunes du quartier. Donc ça, c'est très important. Et j'ai fait à plusieurs fois l'expérience Ici, n'importe quel étranger au quartier arrive ici. Si les gens voient qu'ils ne se connaissent pas, même ils vont très probablement vous dire « Ah, vous n'êtes pas des amis de Karim, Henri, etc. » Parce que ça fait complètement partie de leur histoire. Depuis 12 ans, ils voient ça. Donc maintenant, ils ont une réaction extrêmement positive quand il y a un étranger. Mais vous pouvez aller dans une cité pas très loin d'ici qui a la même sociologie et vous avez plus de chances de vous prendre une pierre parce qu'il n'y a pas cette expérience. Donc ça, c'est très important de décloisonner le quartier en faisant se rencontrer ces univers. C'est très important aussi pour les gens à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire toute une histoire de venir dans ces quartiers qui sont un peu mal vus souvent. Et ils se rendent compte qu'en fait, il y a aussi dans ces quartiers des familles formidables, mais dont on parle moins à la télévision, qu'on ne connaît pas. Dans mon petit livre « Moines des cités », je cite Gandhi qui disait « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Et donc pour les télévisions, c'est toujours très difficile de filmer une forêt qui pousse. Ça ne peut pas passer au journal le soir, ça ne fait pas de bonnes images. Par contre, un arbre qui tombe, oui. Mais la réalité, c'est que, non, à travers l'éducation, les rencontres, dans la durée, c'est là, en fait, qu'apparaissent ce que moi j'appelle des prototypes de l'humanité nouvelle. C'est-à-dire que, alors que les gens, généralement, restent coincés dans des stéréotypes, qu'ils se renvoient les uns aux autres, quand ils se voient dans un autobus ou un métro... Ils pensent voir telle personne, mais en fait, ils ne la connaissent pas. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des expériences concrètes positives dans lesquelles les gens vont tout à coup, ou progressivement, réaliser qu'en fait, l'identité des uns et des autres, elle est complexe, elle n'est pas simple. Il ne faut pas mettre les gens dans un camp. Et soi-même, même, il ne faut jamais se mettre une étiquette parce qu'on est toujours surprenant. Et donc, cet infini qui est en nous, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, il faut en faire l'expérience progressivement. Et ce qui permet de se libérer donc, de ces stéréotypes et au contraire d'accoucher d'une humanité nouvelle et donc d'arriver dans des prototypes qui sont des vrais types en chair et en os, qui font des choses positives et qui ça peut être une réalité métissée qu'on n'a jamais vue encore. Enfin voilà, l'humanité, c'est aussi du nouveau. Et dans ces quartiers, je crois qu'on voit vraiment émerger du nouveau. Ce qui est intéressant, c'est à partir du fait qu'on habite ici, de pouvoir jouer un espèce de rôle pivot, de diplomate, de traducteur, d'interprète, qui permettent à ces univers qui ne se connaissent pas de progressivement se rencontrer. C'est pas facile quand on ne se connaît pas, quand on ne parle pas la même langue, quand on a parfois aussi un passé douloureux, par exemple entre la France et l'Algérie, il y a 8 ans de guerre, entre l'islam et puis le christianisme, il y a tout un passé de djihad, de croisade, etc. Et un présent aussi, puisque vous avez les guerres en Irak, la situation en Palestine. Donc on doit lutter contre ça. Et ça, c'est toujours les images que les gens ont dans leur petit écran chez eux, à la télévision. Donc il faut recréer d'autres images, mais à partir de la réalité, qui ne soit pas purement justement du virtuel.
Donc les bénévoles qui viennent ici sont des gens qui viennent des, ce que vous appelez les beaux quartiers de Marseille.
Oui, c'est une expression qui est totalement critiquable que j'utilise. C'est des gens qui, par exemple, moi-même je suis professeur à mi-temps, professeur d'anglais dans un lycée qui est paradoxalement juste à côté d'ici, qui s'appelle le lycée Lacordaire, tenu par des dominicains, c'est un établissement catholique. Dans cette école qui est tout proche d'ici, vous pouvez faire l'expérience physique immédiate du fait que vous changez totalement de continent. C'est-à-dire ici, moi j'habite en Afrique, pour aller vite, je traverse l'avenue Corot qui est juste à côté, et en 10 minutes, je suis de retour en Europe, l'Europe des Gaulois, où il y a des blondes aux yeux bleus, voilà. Et donc ces univers donc, sont assez marqués d'un point de vue ethnique, c'est visible, et aussi culturellement, c'est des univers différents, et sur le plan scolaire, donc dans cet établissement, les gens ont tous leurs examens, etc., tout va bien pour eux. Souvent, la plupart ont des familles qui sont ici en France depuis longtemps, donc c'est vraiment toutes des données sociologiques très différentes. Alors pour eux, c'est très important qu'ils prennent sur leur temps scolaire, et c'est le mérite de cette institution, c'est de se dire, voilà, on va prendre un temps d'aumônerie pour que les jeunes puissent aussi, ceux qui le désirent, faire une expérience dans un univers différent, un univers apparemment plus pauvre, de gens arrivés en France récemment, pour beaucoup de traditions musulmanes, et puis de faire cette expérience, de risquer cette rencontre, voilà, alors qu'on aurait peut-être peur de faire cette rencontre. Et puis donc, dans 10 ans, dans 20 ans, ces personnes vont peut-être se retrouver directeurs des ressources humaines, à embaucher quelqu'un, et ils auront peut-être des attitudes très différentes de la ségrégation que malheureusement on constate souvent dans nos pays. Et ça, c'est une expérience que je fais chaque année, avant que les jeunes se rencontrent pour la première fois. Ces lycéens des quartiers donc européens viennent ici pour la première fois, les enfants ne sont pas encore sortis de l'école, et je leur donne des fiches qui sont au nom des élèves qui vont venir. Tous ces noms, pour la plupart, sont des noms d'origine arabe. Et ils me disent toujours « Ah, c'est vraiment curieux, ces noms. Aslanis, Fahad, etc. » Et à l'inverse, les enfants, quand je suis moi corrigé mes copies ici, me disent toujours « Ah bah tiens, Jean Dupont, c'est vraiment bizarre comme nom. » Et donc on voit bien que même dans leur connaissance de leur prénom, il y a une expérience à faire qui est de l'ordre de la rencontre physique, intime finalement. Ça fait partie progressivement de leur univers. Et donc c'est pas un objet de frayeur ou d'opposition, c'est pas une abstraction. Et tout d'un coup, c'est un bon souvenir, c'est une belle rencontre. Et donc, je crois que c'est très important que les enfants, progressivement, et puis leurs étudiants, leurs lycéens, puissent progressivement tisser ces liens d'amitié qui vont avoir un impact, à mon avis, beaucoup plus grand que simplement l'aide scolaire et qui a aussi des effets de ricochet puisque les gens rentrent chez eux et discutent chez eux.
Henri Quinson et Karim Debrouker, tous deux moines dans la banlieue nord de Marseille, dans leur fraternité, la fraternité Saint-Paul. Ils répondaient à votre micro, Sabine Petermann. Et demain, nous les retrouvons d'ailleurs les deux pour une dernière étape.
Oui, demain, une dernière rencontre où il sera question de la particularité de ce nouveau type de communauté monastique en plein cœur des villes.
Mmh. Rendez-vous demain donc pour un dernier épisode, toujours réalisé par Françoise Yenny. Nous rappelons le titre du livre d'Henri Quinson, Moines des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, paru aux éditions Nouvelle Cité. N'hésitez pas à nous téléphoner si vous voulez nous faire part de vos commentaires et remarques. Notre numéro est le 021 318 60 70. Vous pouvez également commander les enregistrements de ces émissions au prix de 15 francs l'exemplaire ou 30 francs pour toute la série complète. Votre après-midi continue sur Espace 2, il va être 17h.
Espace 2, la vie côté culture. La vie côté culture.